Bonjour Pierre Adèle Benoît.
Bonjour.
Donc vous présentez Hurlot à la carrière Boulbon du 13 au 24. Et j'ai envie de dire, c'est Pipo Del Bono, le retour en Avignon, puisque vous étiez venu il y a 2 ans. C'était la première fois que l'on vous voyait, donc on vous découvrait en France. Et depuis, j'ai eu la sensation que vous étiez devenu une star. Est-ce que vous avez ce sentiment-là?
C'est fait que maintenant je dois partir, excuse-moi, j'ai un avion personnel qui ne va pas. Non, je ne sais pas ce qui passe. C'est vrai que nous sommes 2 ans que nous sommes venus ici et c'est pas que la France t'a découvert. Moi j'étais déjà, m'a découvert ma mère avant de la France. C'est seulement qu'ici, c'était réellement une occasion très importante pour montrer un parcours de théâtre qui est long, il était un parcours qui sont passées beaucoup de choses. Et alors, à la même temps, c'est vrai qu'après, ils ont commencé beaucoup de spectacles en France. À Paris, maintenant, nous avons présenté 6 spectacles différents au théâtre de Ronfond. Et alors c'était une occasion vraiment pour rencontrer la gens et créer un peu une situation, je pense un peu comme une famille. Une chose belle qui est passée à Paris, qu'après tout le monde est resté là, ils viennent à parler. Il s'est créé comme une situation de familiarité, comme il est passé aussi à l'Avignon, quand nous sommes venus ici la première fois. Je pense que c'est proprio l'opposé de la star. La star, c'est une personne qui va, qui fait une chose, il se va. Et nous sommes pratiquement entrés avec des contacts avec tout le monde, avec toutes les personnes. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Non,
donc vous présentez un nouveau spectacle, puisqu'on a eu une vision un petit peu rétrospective de vos créations avec les 3 spectacles présentés il y a 2 ans et les 6 spectacles que vous avez présentés au Théâtre du Rond-Point pour ceux qui vivent à Paris ou qui y vont de temps en temps. Là, vous proposez une création qui s'appelle le Hurlot, ce qui veut dire le cri. Mais de quel cri s'agit-il? Est-ce que c'est le cri d'une victoire ou le cri d'une défaite? Parce qu'il y a le cri conquérant et le cri douloureux.
Je ne sais pas. Cioè, dans un côté, le cri, c'est une parole qui peut réassumer beaucoup de choses. Pero, par raison, j'expliquais avant que moi, je suis Gémini et hier soir, je voudrais changer tout. Parce qu'il arrive une qui va construire, l'autre qui va détruire tout le temps. Alors, il cette situation de double qui existe, c'est difficile. Il y a les deux. Il y a les cris de désespoir, il y a les cris réassument beaucoup de choses. Une fois, je lis, quand le spectacle est déjà terminé, je lis les choses de Munch. Il disait qu'un jour il passait, et c'était un jour normal de la vie, et il était avec 2 amis, et il avait un moment, il a regardé le ciel, et là, les 2 amis ils sont partis un peu plus avant, et à ce moment-là, lui, il a senti une douleur, un cri, une nécessité, une chose évidente, comme un contact avec quelque chose qui s'est. Le ciel. Alors il est sorti Munch, le cri de Munch. Ça c'est un peu plus bel que le cri de Le Bonhomme. Però, en même temps, il y a quelque chose que tu sens qui te passe à travers l'estomac, que maintenant c'est gros, et tu sens qu'il est là. Alors tu ne peux pas dire c'est le cri de joie, le cri de douleur, le cri de libération, le cri de la révolte, le cri de le pouvoir, le cri de la soumission. Chacun de ces cris, et c'est tout.
Mais comment est né le spectacle? C'est une question comme ça, un peu large et un peu naïve. Mais quelle a été la première image ou le premier mot qui a créé ce spectacle et qui a donné naissance à cette proposition?
Je me suis oublié. Parce que c'est vrai que peut-être au moment, la situation de pouvoir, c'est une chose que chaque spectacle commence pour une question, pas pour une réponse. Chaque spectacle, c'est une question que tu te poses sur des choses que tu ne comprends pas. Parce que si tu comprends très bien les choses, c'est inutile de faire un spectacle. Donc tu la comprends, tu dis, je l'ose l'eau, et je parle. Là, quand il y a une chose que tu ne comprends pas. Et c'est vrai qu'au début, pour moi, c'était un peu la forte sensation que tu sens en ce moment, le thème de le pouvoir. Non? Que ce n'est pas le pouvoir, c'est pas seulement le pouvoir, ok, tu es l'Italie, Berlusconi, non, c'est pas ça. Aussi ça, mais ça, c'est comme un effet, je pense, de vraiment des maladies que tu sens à côté de toi. Non? Qu'il y a réellement des maladies qui existent. Non, qu'il existe, que c'est la maladie de l'être humain. Et là, je pense qu'il ne m'intéresse plus parler de l'être humain que parler des choses qui... Alors, d'un côté, l'être humain, c'est une histoire ancienne, c'est une histoire qui appartient au monde, non? Alors, c'est là que c'est le thème qui m'est venu comme une nécessité de parler de ces questions-là. C'est le thème de le pouvoir. Mais pas pour dire qui sont les personnes qui sont bonnes, les personnes qui sont mal. Non. Pour vraiment entrer plus en profondeur dans quelque chose qui il appartient à ton relation avec le pouvoir. Et là, alors ils sont venus des images d'histoire qui appartiennent à des périodes de ta vie, à des choses que je ne voulais pas parler des choses qui sont dans le spectacle. Au début, la tête, il pense des choses, la tête, c'est seulement. Alors au début, je commence le spectacle avec la tête, non? Et la tête, il est un peu intelligent, tu sais, je veux dire ça, peut-être ça, ça. Après le spectacle, il commence à aller au stomac, il va au fond, au fond, au fond, la tête, il ne comprend plus. Qu'est-ce que c'est? Alors pour ça que me vient les crises, comme hier, qu'il arrive la tête, il dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas changer tout. Non, il arrive l'autre. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça va. Alors je dis, non, il doit remonter le stomac. C'est pas là. Alors, le spectacle devient plus grand que toi-même. Là, c'est belle aussi. Il ne t'appartient plus. Alors, tu dis, oh, mais pourquoi je suis commencé à parler de ça? Good. Alors, c'est vrai. Je pense que c'est un peu comme l'écrit des mots. Tu devais entrer avec une relation avec l'univers, avec la vie, avec la mort, avec la compréhension de la vie. Et alors, là, ils vont en sortir des choses qui sont vraiment plus profondes que la pensée. Non?
Est-ce que vous avez fait appel à des auteurs, à des textes que vous avez souvent utilisés, par exemple Pasolini dans vos spectacles? Est-ce que là, pour celui-ci, Orlo, vous avez fait appel à des textes de la littérature ou du théâtre?
Ben, il y a des paroles qui sont des textes qui sont pris d'Oscar Wilde, non? Qui c'est une réduction de The Catcher in the Reading. Il y a des choses prises de Shakespeare. Et après, il y a des choses que moi j'écris. Et après, il y a, par exemple, un peu l'âme de le test de Ginsberg. Que moi j'ai réécrit. Non? Alors, c'est un peu des hommages à des auteurs, plus que réellement les auteurs. Non? Et Pasolini, il n'y a pas Pasolini, mais Pasolini tout le temps ils sont comme ces maîtres qui t'appartiennent dans la vie, que tu sont là à côté de toi. Nous avons beaucoup de maîtres qui sont un peu comme des anges, des personnes qui te conduisent un peu, qui sont des personnes vivantes, mais aussi des personnes qui peut-être qui sont là comme des parents, non? Ce n'est pas seulement nécessaire que tu vas dire des paroles de personnes, parce que nous sommes fils de personnes qui n'ont passé des choses. Je pense que chacun de nous l'invente rien.
Alors dans vos spectacles, il y a des textes d'auteurs ou de vous-même, il y a aussi des êtres humains et des comédiens, vous parliez d'êtres humains tout à l'heure, il y a une famille autour de vous, on a découvert Bobo, on a découvert Nelson lors de vos précédents spectacles il y a 2 ans. Avec qui êtes-vous venu cette année pour ce spectacle Ourlo?
Il y a tout le temps qu'il y a la compagnie qui me suivent, et après il y a deux personnes, pas de stars, comme quelqu'un a dit, parce que la seule star dans la compagnie, c'est Bobo. Pas moi. Pas Giovanna Marini, Umberto Sini, qui ne sont pas des stars. Les stars, c'est une parole que je déteste. La star, c'est une maladie sociale. Bobo, c'est une star, parce que Bobo, il a passé 50 ans dans un hôpital psychiatrique. Et Bobo, il a fait, réellement, il a touché la vie dans une réalité totale. Alors Bobo, quand il est sur le plateau, pour moi, c'est une star. Parce que Bobo se permet de rester là sans faire rien, rien. Et il est extraordinaire. Mais il a un grand travail d'acteur, 50 ans d'hôpital psychiatrique terrible. Alors, et il n'écoute pas, il n'entend pas, il n'apporte rien. Il adore faire le théâtre, mais son passion, c'est le football. Et alors, quand il termine le spectacle, il dit où? Maintenant, il a la fanfare, il dit où est la fanfare? Il dit la fanfare, il veut jouer. Alors, Bobo se peut permettre d'être un star, parce que c'est comme, je me rappelle, quand j'étais au Népal, il y avait tout le monde, il adorait une jeune fille. J'ai dit, mais c'est impossible d'adorer une jeune fille, comme ça, petit, non, un enfant. C'est la personne que tout le monde, il adorait. Alors parfois, moi aussi je parle beaucoup de lui parce que tu peux donner à lui de l'importance parce que tant que Bobo, il ne se monte pas la tête de Bobo c'est petit, il ne peut pas monter. Alors en même temps, il ne l'écoute pas, nous pourrons parler une heure de lui qui est extraordinaire, lui il te parle de drapeau, il te parle d'oiseaux, il te parle d'autre chose simple de la vie, alors lui c'est vraiment un star. Tu nous, personne plus normale, c'est dangereux de devenir des stars. Et alors, pour retourner à ça. Alors, dans ce spectacle, il y a deux personnes qui s'appellent Giovanna Marini et Umberto Cini, qui sont des personnes qui ont une très longue expérience d'art et de vie aussi. Non? Parce que ce n'est pas seulement Bobo qui a l'expérience de vie. Mais c'est vrai qu'ils sont des personnes qui se sont rencontrées un peu comme ça, réellement comme des personnes qui font un parcours de vie différent. Et pour Umberto Cini, ils se sont rencontrés. Il est venu avoir la rage dans une situation un peu bizarre parce que c'était un fait de refondation de gauche, je ne sais pas, c'était une situation totalement délirante. Et là, lui, il a commencé à venir avoir le spectacle. Il a vu tous les spectacles, il est venu à l'Isle de la Réunion, il est venu à Paris. Et là, il a commencé à dire qu'il voudrait être dans la compagnie, avec la compagnie. Lui, c'est un acteur avec une grande expérience, un grand acteur de théâtre et de tradition en Italie. Però la chose importante pour moi, c'est une personne qui se veut mettre avec des autres personnes différentes. Alors là, il commence son parcours. Giovanna Marini, c'était la même, moi je l'ai rencontrée, je la connais parce que c'est normal que tu la connais, je l'ai écoutée beaucoup de fois. Però la première fois, quand je la vis en France, moi, je viens avoir ton spectacle, la soirée, il me téléphone et me dit, et je dis, maman, c'est incroyable, il ressemble à ma mère. C'est plus belle, mais elle ressemble à ma mère, quand les choses sont bien petites, non? Et à la fin, il me téléphone et il me dit, c'est la soirée, il me dit, c'est mieux que tu ne viennes pas voir le spectacle parce qu'il pleut. Peut-être c'est dangereux, alors je dis merde, alors c'est vraiment pour ma mère. En fait, hier soir, quand je voulais détruire tout, pas tout, mais beaucoup de choses, il est venu Giovanna, il m'a dit, ma pipe, m'a dit que tu veux changer tout, mais non, mais ça va, le spectacle, c'est pas... Maintenant, tu es fatigué, tu dois manger, il va commencer à prendre beaucoup de choses, elle dit, c'est pas pour ma mère. Alors, c'est là sont importantes, ce sont les relations humaines qui sont importantes. C'est pas que tu peux faire le spectacle absolutement sans Giovanna Marini, sans Umberto Cini, sans... Però sono quando le persone che si mettono un po' insieme per fare un parcours, là je trouve qu'il y a qualcosa di vivant, che se non la famiglia, quelquefois, elle reste tout le temps la même famille. C'est intéressant ouvrir. Par exemple, hier, je ne sais pas si Rodrigo l'avait dit à un moment, qui lui préfère travailler avec les personnes qui sont un peu dans la même idée. Moi, je préfère travailler aussi avec des personnes, c'est pas important l'idée, pour moi, c'est important l'être humain. Moi, c'est un jour, il vient Berlusconi, il me dit, Pippo, je ne veux plus faire la politique. La réalité, je veux faire du théâtre.
L'accueillir.
Si, mais lui, il ne doit pas dire que moi, alors je veux un castel pour ma résidence, un avion privé. Je dis non. Mais c'est lui, il sait mettre dans la même loge des bobos, ou les autres de la compagnie. Il accepte, lui au moins, tu ne peux pas faire manger comme ça, non? C'est Berlusconi, il accepte les règles qui sont dans la compagnie. Je dis pourquoi non. c'est un parcours, c'est la façon plus longue que je sens dans ma vie, mais en même temps, pourquoi non? C'est une façon pour ouvrir ta vie. Je pense qu'il vient pas parce qu'on vient me demander de faire la fois.
C'est
extrême, non?
Vous êtes quand même beaucoup plus proche dans les univers et dans les référents avec Johanna Marini, rassurez-moi, qu'avec Berlusconi.
C'est vrai. Però, c'est vrai que nous sommes plus à côté. Però, en même temps, nous sommes tous différents dans la vie. C'est un peu... Parfois, quand tout le monde dit beaucoup d'expériences politiques, beaucoup d'expériences, je pense qu'ils sont tombés parce qu'au début, tu penses que tu es tout dans la même pensée, non? Et à un moment, il y a la crise. Alors, moi, je préfère penser que tous nous sommes différents. Aussi, nous pourrons être un peu... C'est pas important que nous pensions la même chose. Je pense que tu fais du théâtre avec des personnes. Alors, comme je dis, moi, je pense pas la même chose de Bobo. Je sais pas ce qu'il pense, Bobo. Je pense pas la même chose de Nelson. Que Nelson, tout le temps, il parle d'avion, il est complètement... Non, au Jean-Luc, les petits mongoliens. Cioè, il y a des personnes que tu ne peux pas confronter avec la pensée. Alors nous avons un peu refusé la dimension de la pensée. Tu te confrontes avec les personnes pour l'action concrète. Comme il y a, c'est plus profond que la pensée. Sinon le théâtre il devient le risque que, comme il y a une catégorie intellectuelle très chic, qui sont des intellectuels de gauche. Excuse-moi pour l'intellectuel de gauche, mais il y a un peu le risque, non? Moi, je me sens parfaitement politiquement correct, politiquement... L'autre jour, j'étais ici avec le ministre. Je ne sais pas, je n'ai pas compris qu'il y avait un ministre. Je suis arrivé avec le vêtement de la plage. C'est terrible, non? Et à un moment, je parlais de que la culture est devenue comme le Louvre, non? Il y avait une personne de gauche, mais parfaitement une femme très élégante, qui m'a dit, mais non, le Louvre... s'est senti offendu parce que moi j'ai dit que la culture s'est devenue comme le Louvre. Je ne veux pas dire que le Louvre c'est une merde. Non, c'est clair. Elle m'a dit non, mais le Louvre, tu dois prendre les enfants, tu dois enseigner, expliquer le Louvre. Ah, j'ai peur de le mettre qui devra expliquer le Louvre. Non, il n'a pas compris. Et après il m'a fait une question, et après il a parlé avec un autre. Ça c'est un peu le chiquerie. Parfois je sens aussi en France, non? Aussi en France, il y a, par exemple, il y a une critique, je ne sais pas qui m'a dit, moi j'aime pas Del Bono, parce que moi j'aime pas le cœur de cœur. Ça va, c'est possible d'avoir peur. Mais alors, c'est plus le risque de la tête. C'est le risque de la tête. C'est la même que quelqu'un te dit que tu vas mettre Bobo parce que tu veux instrumentaliser Bobo. Ou quelqu'un autre qui te dit, non, je veux tout le temps Bobo. Non? Pourquoi maintenant jaune et plastique, quelqu'un m'a dit? Parce que jaune et plastique, les fous sont les normales. Non? C'est quelqu'un, les jaunes et plastiques, le Bobo, c'est le plus sage. La folie, c'est dans la normalité. La normalité d'être personne politiquement correcte. Là, il y a une folie, il y a une schizophrénie dans notre société que nous ne devons pas voir. Je me suis un peu perdu, mais pour expliquer que c'est pas... Je pleure. Que nous pensent qu'il a la même chose. Oh. Oui. J'ai beaucoup peur.
Tout ce qui a démarré, c'est que Johanna Marini. Qui pourrait vous dire sur ce nom, Johanna Marini. Donc, Johanna Marini et Umberto Orsini, on va parler de votre concert à la carrière Boulbon, on va parler de la carrière Boulbon aussi, mais puisque Pippo Del Bono vous prend pour sa mère, le prenez-vous pour son fils, hein, prenez un micro.
Vous est arrivé cette affaire de mère-fils, mais ce n'est rien de grave. C'est-à-dire que quand on a un âge comme le mien et lui le sien, évidemment le rapport est... n'est pas comme entre les gens du même âge. Mais je pense que nous parlons deux langages différents, mais je suis très frappée par le langage de Pippo. Le Pippo m'a beaucoup frappée, parce que, en fait, il dirait qu'il n'utilise pas beaucoup de mots. Il n'a pas beaucoup de confiance dans les mots, Et quand j'ai vu son premier spectacle, tout était donné par la musique. Par la musique qu'il sent en profondeur. Il peut mettre beaucoup, beaucoup de choses entre le contraste de la musique qu'il utilise et la scène, ce qui se passe sur scène. Quand Bobo entre sur le plateau, habillé comme s'il était un roi, et je l'avais vu dehors de la scène en attendant d'entrer, avec sa couronne sur la tête, et l'air absolument tranquille, avec cet agneau, cette brebis ou chèvre, ce que c'est, à ses côtés. Il m'a immédiatement montré la chèvre, comme ça, avec la couronne sur la tête. Je me suis dit, tiens, ça, c'est vraiment du théâtre. Et quand il entrera, ce sera la même chose. Et sur scène, il entre comme ça, et s'il est fatigué d'être... Il n'a pas le jugement des gens sur lui. Et nous, on l'amène toujours, le jugement des autres sur nous, et ça nous change les idées et la façon de parler. Et je pense que Pippo, à travers Bobo, arrive à se moquer du jugement des autres. Et ça, c'est un résultat extraordinaire. Donc, je comprends très bien que l'Ourlo commence avec Bobo qui entre comme un roi et qui termine par Bobo qui joue au football avec Umberto. Et pendant tout ça, il n'y a que des images magnifiques qui te font penser. Mais sans dire un mot, ce que vous dites, vous pourriez aussi ne pas le dire, je pense.
Mais il
ne
peut pas s'en empêcher.
Non,
c'est pas pour
t'étalarder. Il n'a pas raconté tout le spectacle.
Hein. Mais je veux raconter pourquoi j'étais frappée par tes spectacles, tu comprends? Parce que je ne t'avais jamais dit pourquoi j'étais frappée pour ça. Là, je te l'ai dit. Donc, parce que c'est ce manque de mots qui me plaît énormément. Et je vois que Umberto aussi, qui est très très connu, donc les mots pour lui sont très importants, et lui aussi. Il est content de se passer des mots, on dirait. Non, oui, capito.
Après combien, 30, 40 ans de carrière au théâtre en oui. Italie, j'imagine que c'est une rupture pour vous de travailler avec Pippo Del Bono. Je ne suis pas au courant de tous les rôles et de toutes les pièces que vous avez jouées, mais vous êtes plutôt du côté des mots. Donc comment quel a été le désir de rejoindre la bande du Pippo?
C'était un désir de spectateur. J'étais assis parmi les spectateurs et je me suis dit ce serait beau être là sur le plateau avec Pippo. J'ai dit à Pippo mon désir et là, alors, c'était un acte d'amour pour un théâtre qui n'a pas un genre de théâtre. Il y avait du théâtre qui m'a frappé et j'aurais aimé être dedans. Et alors c'était difficile pour moi comprendre comment être dedans sans détruire quelque chose et construire quelque chose sur moi comme expérience personnelle. Et Pippo me dit seulement une chose, que c'est une chose qui est dans le spectacle, en effet. Moi je suis un acteur qui a parlé beaucoup pendant des années, qui a dit toutes les paroles possibles sur la scène. J'ai un certain âge et la confrontation, être sur le plateau avec un homme, un acteur extraordinaire comme Bobo et lei naturellement, qui n'a jamais dit un mot, ça c'est une rencontre, à mon avis, pour moi, j'espère que le public, assez émouvant. On sent qu'il y a quelqu'un qui a dit beaucoup de mots et un autre qui n'a jamais dit de mots. Et la rencontre entre les deux, c'est une rencontre de deux typologies d'acteurs qui se mêlent, se confondent, qui jouent, qui s'embrassent et se font. Et alors ça, c'est le sens pour moi de la rencontre avec ce théâtre que j'aime beaucoup, cette troupe d'acteurs que j'ai voulu rencontrer, vivre avec eux pour prendre... Je me suis redimensionné aussi. Je suis habitué aux grandes loges, aux velures, aux habilleuses. Et le fait que je dois m'occuper de mes choses, depuis 40 ans que je fais du théâtre dans un certain système, ça me donne un peu de faire à 60 ans de Boy Scout, un petit peu, mais quand même, c'est beau. C'est beau et c'est une chose qui c'est une espérance de vie. Pas de théâtre, parce que le théâtre, quand il est beau dans un genre ou l'autre, c'est pas la différence. C'est du bon théâtre.
Merci. Oui, il y a aussi le... Ah, pardonnez-moi, je vous ai coupé le... Non, je pensais maintenant que la musique arrive sur la scène. Et c'est toute la fanfare de l'école, par exemple, et que Pippo a beaucoup cherché. Il a beaucoup cherché. Nous sommes allés ensemble à Sassaurunca, c'est un petit pays dans le sud, et il a bouleversé complètement une confrérie de ceux qui portent le capuchon noir, qui étaient attirés, mais comme tout, de participer à son spectacle. Ils voulaient. Et tellement il a simplement parlé, eux, ils ont simplement chanté, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Et puis les vieux de la fanfare sont entrés en collision fortissime contre les jeunes de la fanfare. Et il a risqué de briser la... Non, non, de la fanfare, de la confrérie. Il a risqué de briser la confrérie, une des plus anciennes confréries d'Italie, qui s'est reconjointe en lui disant « Faites tout ce que vous voulez, nous vous laissons la musique, nos confrères qui chantent, mais nous, on ne peut pas venir là parce que le théâtre, c'est trop loin de nous. Le théâtre, ça nous bouleverse. Et nous ne pouvons pas aller sur le théâtre si nous devons aller tous ensemble. Nous sommes plus de 55, simplement les confrères, et puis il faut la fanfare, ça fait plus de 100 personnes. Alors ça commençait vraiment à être un peu un grand problème. Alors la fanfare de Testaccio, qui quand même représente elle aussi un univers. Je pense que quand la fanfare entre sur le plateau, c'est un univers. Il y a les vieux, il y a les enfants, il y a les femmes, il y a tous... Avec sur le visage, il y a écrit la vie, comme sur tout le monde. Et de voir tous ces gens qui sont dans le travail, sans rien d'autre que apporter soi-même, être heureux d'être là, ça me donne une joie tous les soirs de voir ça. Je suis très contente. Et puis tout d'un coup, nous arrivons avec le quatuor, voilà. Mes trois dames compagnes qui chantent avec moi, et c'est une soirée où nous chantons. Et ce n'est encore que de la musique. Et alors ça me rend très, très heureuse que nous passons 15 jours ici, toujours dans la musique. C'est pour moi un idéal.
On va parler de la Tour de Babel, qui est la cantate que vous proposez avec vos trois dames, comme vous dites. Mais je voudrais savoir s'il y a des questions dans le public et dans la salle. C'est pas vraiment une salle. Pour Giovanna Melmini, Umberto Orsini ou Pippo Del Bono. Un tour à 180 degrés. Non, aucune question. Vous êtes fatigués, ils sont fatigués. Monsieur, pardon.
Alors donc j'ai vu trois spectacles à jour il y a 2 ans. Si, et après j'ai vu les Gentils Pastica à Paris. Et j'étais terriblement déçu de ce spectacle parce que j'ai pensé que c'était vraiment du côté improvisation, tout est passé. J'ai pensé que c'était trop construit. Justement, j'attends votre spectacle, donc prochain spectacle avec impatience. Donc du côté comme ça improvisé, work in progress, tout ça, ça m'intéresse énormément. Est-ce que du fait que vous avez accentué ce côté improvisé, est-ce que c'est une réflexion que vous avez faite par rapport à votre dernier spectacle vous n'avez pas changé depuis le début
Bah, il n'y a aucune improvisation dans le spectacle. L'improvisation, il appartient à un moment de tous les spectacles, ils sont totalement... Par exemple, Jean de Plastique, il y a un système qui peut-être ressemblait plus fixé, ma Balboni, c'est totalement fixé. Chaque geste, chaque mouvement de les yeux, je le vois fixé. Il n'existe pas l'improvisation. L'improvisation, il existe, c'est pas la liberté que le monde il se mette là et fait qu'est-ce qu'il... plateau. L'improvisation, il existe seulement, peut-être tu viens au Japon, il y a un peu de confusion entre la, qu'est-ce que c'est la précision et l'improvisation. Je s'en parlais avant. Tu es japonais, non? Alors, c'est pas ça. Le spectacle aussi, si tu dis que ces spectacles te ressemblent, qu'ils sont plus improvisés, c'est pas improvisé. C'est pas venu, mais j'arrive et dis bonsoir au verre. Je dis, ce costume, c'est Pierre Cardin. Mais moi, je regarde tout le temps, trois fois, tu sais fixer. La liberté, il existe parce que tu vas faire un design. Alors, c'est seulement un peu une malvision de la chose passée, que les choses y sont. Tu as la sensation de l'improvisation, parce que c'est normal que quand tu es avec Bobo, tu ne peux pas faire « bonsoir, je pense l'autre », je ne sais pas. Non, le temps qui est fragile, qui est détruit, parce que tu es avec des personnes qui sont détruites, ben c'est totalement fixé. Excuse-moi, je m'énerve un peu, parce que quand on dit quelqu'un que c'est les autres, genre de plastique, c'est plus fixé, les autres ne sont pas fixés, c'est une malvision de la chose. C'est totalement, c'est beaucoup plus fixé et harmonique que les genre de plastique. Aucun geste, il est libre. C'est la sensation qu'il arrive de liberté. Ben, la liberté, c'est pas, tu ne peux pas improviser sur le plateau. Sur le plateau, tu dois fixer tout, parce qu'ils sont des interprètes. Nous travaillons avec Humberto, nous avons travaillé des heures pour le moment précis qui se mettre les lunettes là. Non, c'est un peu, non. Un peu plus doux, plus vite, non, un peu plus doucement. Quand tu te mets sur la chaise, non, pas, ah, je le dis, non, la dernière, 10 cm, pas, le cul il tombe. C'est pas de l'improvisation. Il n'y a pas aucune improvisation. C'est, il n'y a aucune improvisation. Mais on nous parle après de ça parce que c'est un discours un peu compliqué. Sinon, non.
C'est littéral, le dernier. Les gens qui disent plastica, c'était très littéral, c'était très construit. Plus que les autres spectacles.
Viscéral.
Littéral, tu as parlé de la tête tout à l'heure. Donc c'est ça, la tête était trop poussée pour moi. Hein. C'était peut-être, je me trompe. Hein. Mais c'est tout ça, quand je t'ai parlé tout à l'heure, quand tu me disais que ça, tu changes de décor, et puis le lendemain, tu changes, tu démarres de nouveau. C'est le mot improvisation, c'est peut-être, c'est ça que ça t'a choqué, mais bon, je suis sûr que c'est pas ça, c'est pas ça l'improvisation, mais disons que, bon, est-ce que entre le dernier spectacle et le spectacle que tu vas présenter maintenant, est-ce qu'il y a une fossée ou alors c'est la continuité
Oui. Est-ce qu'il y a une rupture en fait du spectacle?
Non, oui, et là, je comprends ce que tu dis. La question que j'ai dit hier, que je t'ai dit avant que nous avons parlé, qu'il y a un moment que tu veux détruire les choses. Parce que maintenant, le spectacle, la première du spectacle, c'est mardi. Et après, ce n'est pas la première de la vie. Cioè, la première, il peut être après 20 jours, je ne sais pas. Non, mais quand le spectacle, il a encore une construction, c'est juste, moi, je pense que tu vas détruire un moment pour peut-être changer une petite chose. Non? Hier, j'ai passé 4 heures à passer de changer beaucoup de choses. À la fin, j'ai changé seulement deux façons différentes qui entrent la jambe. Et la jambe doit entrer dans là, je dis non, il entre là, une petite ligne. 4 heures, je pensais beaucoup pour deux, pour un petit fragment, non? Donc, tu dois passer avec plus d'instructions pour comprendre les petits fragments. C'est important, les petits fragments. Mais quand un spectacle est terminé, il est terminé pour moi. C'est comme un design, c'est là. C'est pas que tu changes, tu vas improviser. Et je me suis perdu.
Non, je crois que la réponse.
C'est ça, c'est ça. Et alors, c'est chaque spectacle, je pense qu'il est un peu différent dans les autres. Non? Mais en même temps, chaque spectacle, je pense qu'il se porte un peu quelque chose qui appartient aussi à les autres. Non? Bon, c'est la vie, non? Tu changes un peu, mais en même temps, quelque chose, il te reste tout le temps à côté de toi, tu te l'apportes. Non? C'est pas que tu prends improvisamment tout change. Après, c'est pas moi que je peux dire si c'est différent ou si c'est la même. Non, peut-être c'est l'agent qui regarde. Non?
Une autre question dans la salle, monsieur.
Bonjour. J'aimerais savoir, comme vous sortez le livre sur le corps de l'acteur, ce que vous apporte dans votre travail et dans votre imaginaire le corps de l'acteur, et est-ce que vous pensez que c'est l'avenir du comédien que de travailler sur son corps ?
Le livre, le corps de l'acteur, il est sorti hier, que vous pourrez acheter.
Au solitaire intempestif, un livre d'entretien avec Hervé Ponce, c'est ça ?
C'est deux livres en 3 mois, c'était la folie. Mon théâtre avant. Et maintenant, le corps de l'acteur. Et au début, les 200 pages, après, il est devenu 90. Moi, je l'ai vu tout, je dis, non, c'est là, ça va pas, ça va. 90 peut-être. Non, je pense qu'il y a une grande sagesse dans le corps de l'acteur. Il y a une grande vérité dans le corps de l'acteur. Il y a une grande concrétesse dans le corps de l'acteur. Il y a une histoire qui, moi, c'est mon parcours. Moi, j'ai travaillé beaucoup de temps sur le corps de l'acteur. Moi, j'ai passé beaucoup de temps, quand j'étais en Danemark, à faire passer des heures pour réellement écouter, trouver les petites forces qui existent dans la différence que tu te mets sur une chaise, tu tiens le poing, que tu arrives comme ça, tu regardes. Et tout le temps, tu sens le petit corps qui danse. C'est aussi la voix. Pour moi, la voix, par exemple, c'était totalement une question physique. Non, hier, Joran m'a fait un compliment, elle a dit, tiens, une voix forte, quand tu chantes, tu fumes, tu dors pas, tu restes la nuit réveillé, après tu as la voix qui va t'en. Moi, je pense que c'est beaucoup le travail que je faisais sur la voix et le corps. Je concentre plus les forces sur l'estomac, la voix c'est ici qui part, pour laisser que pas attention, il ne va pas toucher l'attention de l'autre. Alors c'est tout le temps possible, la voix c'est le travail sur le corps pour moi. Alors à un moment, je pense que c'est important pour moi transmettre un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te demandent des choses pour le stage, et maintenant c'est difficile de faire des stages, peut-être transmettre quelque chose qui parle plus de ce thème-là. Comme un acteur, il peut être un acteur totalement lié au corps, pas à la psychologie. Non? Moi j'ai peur de la psychologie, j'ai beaucoup peur. J'ai beaucoup peur de la tête qui se peut perdre. Non, moi j'ai beaucoup peur de la tête, parce que la tête c'est une chose qui te peut devenir malade. Non, moi je connais des acteurs, peut-être un peu plus que moi, que je les regarde, qui ont 70 ans, 75 ans, qui sont totalement perdus dans la vie. Et je jure, je pense que quelque chose est un peu dangereux pour le métier de l'acteur. Parce qu'à un moment, tu n'es plus un personne, tout le temps tu es un personnage. Tu sais, alors nous vont risquer de devenir des personnes qui sont tout le temps, que tu les vois dans une bar, tu dis, ah lui c'est un acteur, je le reconnais. Pourquoi? Alors si tu vas dans une bar et tu reconnais l'acteur, il signifie que l'acteur il est devenu une personne plus spéciale. Et c'est le théâtre, il y a une chose qui parle de la vie, devenir spécial c'est dangereux. Il signifie que aussi si tu vas déclamer, à parler de Shakespeare, à parler de tout, tu es devenu une personne spéciale, alors tu as perdu le contact avec la vie réelle, comme il était Pulcinella, Arlecchino, ou l'histoire de la comédie dell'art, ou Falstaff, ce sont des personnes réelles. Maintenant, ils sont devenus des stars, pour retourner le thème des stars. Alors je pense que dans le travail de l'acteur, il y a une très intéressante possibilité d'être. Non, je, par exemple, à moi, il m'a touché une histoire qui m'a raconté de... Come si chiamava questa storia che faceva Mezzogiorno? Vittorio Mezzogiorno, sei un attore della tele italiana che après il a passé 4 anni avec Peter Brook, no? E il a fatto un travail sur le corps, no? Il a commencé a fare dell'acrobatique, des choses impossibles. Et moi j'ai étudié avec Cislak, j'ai travaillé avec Cislak, le vieux acteur de Grotowski, qui c'est totalement un acteur du corps. Et c'était incroyable, par exemple, voir Vittorio Mezzogiorno, que moi je l'ai vu à la télé, à faire des choses, le commissaire, je ne sais pas. Après cette expérience-là, une autre personne. Je dis, oh là là, je ne pense pas qu'il a travaillé sur les personnages d'Arjuna, il a travaillé sur le corps. Non? Parce que Et là, alors là, tu sens que là, il y a une vérité. Et c'est après, pour moi, la vérité qu'il y a Bobo. Bobo, elle est sortie. Et alors, son corps, il parle. Dans chaque petit geste, il parle, il parle, il parle. Non?
Une autre question? Non, oui. Pipo Delbono, et on va parler, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu, de la tour de Babel. La carrière Boulbon, vous avez entretenu quel rapport avec la carrière Boulbon, Pipo Delbono, qui est un lieu important et très marqué dans l'histoire du Festival d'Avignon? On a pu voir notamment le Mahabharata. Comment vous vivez dans ce lieu?
Le lieu devient comme un ami, non? Parfois. Au debout, quand je l'ai vu, quand je suis tourné à Gibellina, parce que nous avons fait les avant-premières à Gibellina, j'ai dit non, Gibellina non, parce que c'est pas bon. Après, nous avons travaillé à Gibellina, et dit pas, c'est pas mal Gibellina, non? Parce que Gibellina, je faisais déjà le silence. Quand nous sommes arrivés à la carrière, au début, c'était un peu. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est comme quand tu connais de nouveaux personnes. Après, tu restes là, et le lieu te commence à parler. Je pense que le lieu, il te parle. Alors il y a un moment que le lieu, il te commence à redonner des choses. C'est une relation silencieuse avec le lieu, non? Et tu sens qu'il est comme l'écrit. Il est un lieu douloureux, c'est un lieu fort, c'est un lieu doux, c'est un lieu qui te protège. C'est un lieu... Alors il y a un moment comme que le théâtre, tu le vas faire avec les personnes, avec les paroles, avec la musique, avec le lieu. Là, c'est un ami qui vient, non? C'est bien quelque chose qui te va vraiment, quelque chose qui appartient à le mystère de la nature, qui te parle.
Giovanna Marini, vous diriez la même chose, le même rapport à ce lieu de la carrière Boulbon?
Oui, la carrière hier m'a impressionné beaucoup parce qu'elle résonne. Il y a une résonance très forte, tous ces rochers qui sont aussi placés avec irrégularités qui font résonner beaucoup plus, à la fois moins. Donc ça donne, ça met en évidence des harmoniques, ça forme des battements, ça forme des phénomènes acoustiques qui ajoutent beaucoup à la musique, à la voix. On peut ne pas pousser avec la voix parce qu'elle te retourne beaucoup. Et donc on se sent dans un lieu qui t'entoure complètement. C'est comme si on était dans la caisse d'un violon plutôt que d'être au-dehors du violon. Et ça, c'est fabuleux pour faire de la musique, que je trouve que c'est très indiqué, la carrière. S'il n'y a pas de vent, évidemment, s'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas trop de moustiques qui tentent dans la bouche, s'il n'y a pas ces trois éléments, la carrière est parfaite. Je pense que... Bon, si on les a un à la fois, alors un à la fois, ça peut très bien aller. Et puis encore, nous serons seulement quatre. Je veux voir ça, parce que quatre, c'est peu. Sur un plateau immense, c'est vraiment un espace immense. Mais je pense que n'importe, on peut être même seul, parce que c'est une expression. Moi, je trouve que de faire du théâtre... N'importe où, simplement qu'on te demande de le faire. Là, c'est une expression de solidarité. On est là parce qu'on est solidaire avec quelques discours, quelque chose qui a formé cette pensée, ce projet pour lequel je suis là. J'accepte d'être là et donc je suis solidaire. Or, dans la vie, plus la vie avance, plus je sens que les choses ne sont pas si importantes. Mais s'il y a une chose importante, c'est l'expression de solidarité. Il me semble que d'aller dans un lieu, faire une chose, c'est une expression de solidarité. Surtout maintenant, et c'est pour ça qu'en Italie, par exemple, on nous empêche un peu de faire les choses. Nous n'avons pas beaucoup d'argent pour faire les choses, bien pas Corsini. Nous n'avons pas tant de soldi. Voilà, les choses qui sont à l'origine, comme l'argent, qui avant était distribué de quelque façon pour pouvoir faire les choses, existaient. Maintenant, elles sont toujours coupées, on n'en a plus. Et alors, on voudrait peut-être couper à la source cette expression de solidarité, que par contre, il faut continuer à faire, n'importe comment.
Donc, dans la carrière Boulbon, outre votre participation au spectacle de Pippo Del Bono, vous donnez un concert le 18 avec oui. une nouvelle cantate
oui.
Qui s'appelle la Tour de Babel.
Oui.
Et vous dites, c'est une cantate qui débute par une légende.
Ben, si.
De quelle légende s'agit-il ?
Du héros. Il y a un héros dans le monde qui est très aimé par tout le monde. Et un groupe de tisserands qui veulent raconter l'histoire du héros, alors ils font un tapis immense qui couvre le mur le plus haut du palais le plus haut de la ville, que les gens sachent les gestes du héros. Le héros raconte ses gestes, il dit c'est important quand même, et tout le monde court écouter, ils sont tous enthousiastes. 10 ans après, le héros il part pour faire d'autres gestes. Quand il rentre, il regarde à son tapis et il ne se reconnaît pas du tout, il est furieux, il corrige tous les gestes, disant mais ce n'est pas moi, mais qu'est-ce que vous faites, vous m'avez trahi, monsieur Tisserand, mais je ne veux plus vous voir comme ça. Il commence à être psychosomatique, il a mal au dos, mal aux jambes, il n'est plus tellement héros. Et puis finalement, il se met d'accord pour renverser le cours de l'histoire avec le tisserand. Et il dit, bon, écoutez, dessinez-moi ma fin, ma mort, ainsi que pour une fois, je fasse comme c'est écrit sur le tapis. Et eux, ils dessinent sur le tapis la mort du héros. Il va mourir exactement comme c'est dessiné. Et la voix se lève, le héros est mort, tout le monde court, regardez le tapis, c'est parfait, c'est exactement leur héros, c'est ce qu'ils voulaient. Ils sont tous enthousiastes, ils chantent un chœur, tous ensemble, qui n'a absolument aucun sens. Et ça, c'est la fin de la légende. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est le cri d'un homme qui a peur de mourir, qui est le héros. Et donc, quand une fois qu'il s'est vu mort, il s'est tranquillisé. Peut-être que c'est ça. Tout le monde me demandait, est-ce Che Guevara ? Je ne sais pas. Est-ce Jésus-Christ ? Je ne sais pas. Et je pense simplement à ça.
Mais c'est une légende inventée que vous avez inventée ?
Oui, j'ai tout inventé. Et autour de ça, non, c'est complètement inventé. Autour de ça, il y a des récits. Il y a quand les tours sont tombées, les tours jumelles. Il y a notre travail à Naples. Et Naples, c'est un lieu où n'importe quel travail devient une aventure extraordinaire qu'il faut raconter. Et c'était un travail culturel. Et donc, on disait, c'était une bataille culturelle, il faut la faire. Et on raconte ça, cette bataille culturelle. Et on continue à raconter, parce que ce que j'aime, c'est le théâtre involontaire qui vient du récit. Quand on fait le conteur, on fait du théâtre involontairement. Et c'est la chose que je préfère. Mes amis, Patrizia Bovi, Francesca Breschi et Patrizia Nasini, sont des extraordinaires chanteuses qui me donnent des expressions de solidarité toutes les fois qu'elles mettent leur corps et leur voix à ma disposition. J'écris pour elles en pensant, j'entends leur voix et j'écris des madrigaux. Je trouve que la forme madrigale est très importante, surtout pour les Italiens. Nous avons des madrigalistes extraordinaires. Pourtant, après i fratelli... Oddio, adesso non me ne viene in mente uno. Luca Marenzo, Orlando Di Lasso, Palestrina, i fratelli Gabrieli, Monteverdi e tous les autres. Bon, après ça, on ne parle plus du madrigal, on n'écrit plus de madrigaux. Ma come sarebbe a dire? Ma c'est notre forme la plus pure, la plus belle, donc moi je continue à écrire des madrigaux. Je ne veux pas vous ennuyer avec ça. Et nous chantons des madrigaux.
C'est bien que vous puissiez dans la carrière de Boulbon. Merci beaucoup, Giovanna Marini. Merci beaucoup, Humberto Orsini. Merci à vous, Pippo Del Bono.